Salut tout le monde sur la POC édition du 24 novembre 2022. Je vais gagner ton animateur et avec moi aujourd'hui, Jean-Philippe Vandal, a.k.a. El Flamingo.
Coucou les amis.
Coucou. Sylvain Rioux qui est avec nous aussi aujourd'hui.
Hola.
Hola, hola. Et nous avons un invité encore une fois cette semaine. On est sur une streak qui n'a pas de sens. On est vraiment content de l'avoir avec nous. Le très sympathique et généreux. Je suis sûr, il va tout nous raconter. Déjà, on a de l'inside, nous autres, ça n'a pas de sens. Là. Vous ne le savez pas, là, mais il nous a compté des affaires. Ah. Jonathan Deschênes qui est avec nous, qui est assistant entraîneur avec le Phoenix de Sherbrooke et qui, là, le titre exact par rapport à Pass Hockey, je suis comme pas sûr, copropriétaire, inventeur, technicien, je sais pas.
Ben, non, merci de me recevoir. Puis le titre exact, honnêtement, on n'a jamais pensé à en mettre un, là, copropriétaire, co-inventeur. On choisira plus tard, là, pour l'instant, c'est juste... C'est un titre qui est flou et indécis.
Moi, c'est... je dirais CEO. Ça fait big shot.
Ça fait big, c'est une carte. Avant d'embarquer avec toi, Jonathan, tu vas me permettre, je veux remercier tous les gens qui sont nos patrons, patreon.com/lapoc. Toutes ces personnes-là encouragent le show et pour les remercier avec nos amis de chez Mémorable Authentique, on fait un tirage par mois. Gros, gros, gros merci à Francis et à toute l'équipe. Le tirage ce mois-ci, pour ceux qui sont nos patrons, on vous fait gagner une rondelle signée de Juraj Slefkovski. Donc, quand même pas rien. Un gros merci à Mémorable Authentique. Patreon.com/lapoc pour être dans le concours pour le tirage du mois de novembre. En plus, si vous êtes de niveau Nick Suzuki et plus, vous pouvez vous joindre à l'enregistrement en étant backstage et participer à l'après-show. Donc, je pense que... puis on vous donne plein de matériel comme ça pour les patrons. Donc, bien heureux et très reconnaissant de vous avoir parmi nous, les patrons. Je vais toutes les nommer à la fin de l'épisode. Jonathan, donc, un gros merci d'avoir accepté l'invitation de venir jaser avec nous. Je t'ai contacté la semaine dernière puisque un de nos amis du show, Benoît Bélanger, qui est dépisteur chez les Cataractes de Shawinigan, que tu as connu avec les Commandeurs de Lévis, c'est ça?
Les Chevaliers.
Chevaliers.
À ce moment-là, mais oui.
Excuse-moi. Les Chevaliers, donc vous êtes connus là-bas et peut-être même avant. Il a partagé une publication de Pass Hockey qui annonçait que vous vous étiez entendu avec les Panthers de la Floride pour leur fournir des statistiques avancées. En partant, félicitations. Puis deuxièmement, va falloir que tu m'expliques quel genre de statistiques, comment est-ce qu'on décroche des ententes avec une équipe de la Ligue nationale quand on n'a même pas de site web.
JB est excité là parce que là il a son tableau Excel est prêt.
Oh oui, moi j'ai des stats
prêt,
là.
Il aime ça, là. Ça, il est dans son domaine. Là.
Ça m'allume, là.
Bon, donc si on commence là, par comment, quel genre de statistiques,
ouais.
Après ça je vais expliquer le comment.
C'est bon.
Ça va venir un peu ensemble. Là. Les genres de statistiques, c'est plus principalement un modèle de but anticipé, les expected goals,
ouais.
Qui sont déjà un peu connus, qui étaient plus une stats une quelques années qui étaient au soccer. Nous, c'est fin 2017, début 2018. Les stats avancées, c'était beaucoup à ce moment-là Corsi, t'avais un peu de Fenwick, tout, beaucoup de trucs de volume, puis très peu de trucs de qualité. Fait qu'on était beaucoup dans la quantité et qualité. Nous, on trouvait qu'il n'y avait pas d'outils pour évaluer les gardiens de but tant que ça. Fait qu'on s'est dit que ça nous prenait un outil un peu plus qualitatif. On s'est mis à étudier, enfin, c'est pris une banque de 12 000 tirs qu'on a étudié sur différents facteurs, autant l'emplacement, les écrans, les rebonds, les déviations, les passes, mettons, un peu plus dangereuses, comme les passes transversales, les passes arrière du filet. On a créé après ça un modèle, une équation de but anticipé, avec aussi un espèce de résultat pour les gardiens de but. Fait que vraiment des stats pour chaque catégorie, et ainsi de suite, qui étaient malléables pour différents calibres, différentes ligues. Et c'est ce genre de stats qu'on fournit là à l'entraîneur de gardien, qui maintenant, lui, on lui fournit le modèle, et c'est lui, après ça, qui on le forme à rentrer les données, et ça lui donne, après ça, des résultats de tous les matchs, une compilation, ainsi de suite. Donc, pour faire le lien vers la Ligue nationale avec ça, okay, nous, c'est moi et Hugo Bélanger, qui est encore l'entraîneur de gardien actuel des Chevaliers de Lévis. Quand on a fait ça, c'était supposé être un outil maison. Donc, c'était juste pour nous, on voulait l'utiliser, voir comment ça fonctionnait. La réalité, c'est que on avait un contact aussi avec Frédéric Chabot, qui est aujourd'hui l'entraîneur gardien de but du Wild du Minnesota.
Autre
Qu'on
équipe avec
connaissait.
qui vous avez une entente.
Exactement. Donc, lui, on travaillait avec l'été. Hugo, plus que moi, le connaissait. Il a présenté le modèle rapidement. Et avec le modèle, excusez-moi, Fred Chabot, il a dit, j'aimerais ça l'utiliser. J'aimerais ça utiliser cet outil-là pour mon équipe. Donc là, on s'est dit, ben, peut-être qu'on a quelque chose entre les mains. Si
Ben oui.
un club Ligue américaine veut utiliser ce qu'on fait, ça doit pas être si pire que ça. Et là, c'était vraiment du bouche à oreille, dans le sens que Fred Chabot nous a présenté après ça à d'autres personnes. On a eu un Zoom avec Michael Lawrence, qui à ce moment-là était coach gardien de but à Lugano. On a rencontré, je me souviens plus des noms, tout ça. On a fait une couple de Zoom à 3 h du matin avec des coachs, des gardiens finlandais, suédois. On a eu un lien avec Torsten Apple, qui lui possède une plateforme un peu comme Instat. Je sais pas si vous savez c'est quoi,
Oui.
la plateforme vidéo, hockey, etc. Lui, il y a une plateforme qui s'appelle Sports Contract. Lui, il avait fait la même affaire au soccer qu'il avait vendu pour, il me semble que c'est 38 millions d'euros à la FIFA, quelque chose comme ça.
Le
Il
fun,
voulait,
là,
il,
tu
le fun, exactement. Lui, il voulait refaire ça au hockey.
sais.
On est rentré en contact avec. Lui nous a présenté d'autres mondes. Et là, fil en aiguille, il y a eu comme eu un lien avec différents entraîneurs de gardiens de but. Et il y a eu la filière québécoise un peu. Donc, François Allard, quand il est rentré avec les Panthers de la Floride, quand Roberto Longo a créé le département des gardiens de but, ben François Allaire a ramené Maxime Ouellette dans le giron des Panthers. Maxime Ouellette était un ami de Fred Chabot, ils travaillaient ensemble durant l'été. Donc là, ça nous a comme mis sur la map un peu des Panthers de la Floride.
Très cool. Là, tu sais, pour les épais, là, comme Sylvain puis Vandal, là,
Allô?
ça donne quoi d'avoir ces stats-là? Est-ce que tu coaches différemment tes gardiens de but? Est-ce que tu changes l'approche dans les différentes situations de match? C'est quoi la valeur ajoutée, à part savoir que dans la situation X, il arrive pourcentage Y qu'il y a eu un but ou non, tu sais?
Et pour nous, je dirais il y a deux angles principaux. Le premier, c'est évaluation de match. Donc, on finit le match. Par exemple, on regarde le rapport du gardien de but. Il aurait dû donner 3,20 buts. Le point 20, on le sait qu'il est très théorique, là. Finalement, il en donnait deux. Fait qu'il a sauvé un but au complet. Et ça se peut qu'il ait joué une game excellente. Souvent, ces games-là sont faciles à cibler, comme sont les vraiment mauvais match. C'est les in-between un peu. Donc, le gars, il dit, ah, j'ai juste accordé un but. J'ai joué un excellent match. Ouais, mais t'aurais dû juste en accorder 1,30. Finalement, t'as joué une game correcte. Ça, c'est une performance average. C'est ça le niveau d'attente de ce ligue-là. Si t'as un gardien de but qui veut garder dans ce, mettons, les buts de façon régulière comme numéro 1 dans cette ligue-là, peu importe c'est quoi la ligue en tant que telle, mais ben voici les attentes de performance que tu dois respecter match après match. L'autre option, puis là, c'est en plus un outil formateur, c'est qu'au fil des matchs, les statistiques se complètent, puis on est capable de voir aussi combien de buts tu sauves sur une période de temps. Mais
Des
on a aussi le
tendances.
pourcentage d'arrêt dans différentes situations. Puis sur, par exemple, okay, les tirs avec écran. Les tirs avec écran multiple, les rebonds. Combien de rebonds tu donnes? Non, aussi. C'est quand même une statistique qui est révélatrice. Nous autres, on a une statistique là-dedans qui s'appelle les clean shots. Donc là, tous les tirs, là, on enlève un peu tout le bruit, là. C'est vraiment toi et le tireur, t'en arrêtes quel pourcentage? Après ça, les jeux transversaux, les tirs de l'enclave, ainsi de suite. Fait qu'on est capable de comparer ça à la moyenne qu'un gardien de but, mettons, numéro 1, Ligue nationale fait, ou gardien numéro 1, Ligue américaine fait, ainsi de suite, dans toutes les situations. Fait qu'après ça, on est capable d'identifier les zones où ce que tu es en bas de la moyenne et les zones que tu es supérieure à la moyenne. Fait que ceux qui sont supérieurs, on va définir ça comme des forces. Et ceux qui sont en bas de la moyenne, ben là, c'est des zones à travailler. Fait qu'on est capable d'identifier, après ça, ça n'est pas un match à la fois, ça prend un certain échantillon, mais de 5 à 10 matchs, on est capable d'identifier des zones de travail pour les gardiens de but.
tu disais que les coachs et gardiens devaient rentrer les données. Dans le fond, c'est comme une méthode statistique que vous offrez. Jusqu'à quel point, mettons, l'entraîneur des gardiens, mettons, il change d'organisation, il peut partir avec la méthode ou non? À quel point t'es lock-in avec...
Pour nous, là, mettons l'entraîneur des gardiens, souvent c'est avec lui qu'on fait plus affaire qu'avec directement les GM. Souvent, c'est eux autres qui ont plus d'intérêt envers l'outil. Là. Je ne mentirais pas. Une fois qu'on leur offre, c'est un an. Fait qu'eux, ils ont la plateforme pour un an. Après un an, tout se barre, tu n'es plus capable de rentrer de données, tu n'as plus d'équation, tu n'as plus accès à tes résultats. Donc, si tu veux récupérer, après ça...
Faut que tu repayes, voilà.
Faut que tu repayes. Et nous, il faut que tu nous renvoies la feuille de données que tu avais déjà remplie. Fait que là, on va récupérer, on va te réouvrir ça, juste pour s'assurer, puis là, on va te redonner un modèle actuel, parce qu'à chaque été, on va updater, parce que les ligues, le pourcentage de buts comptés sur le nombre de tirs varie d'une année à l'autre. Il y a des années qui sont plus offensives, plus défensives, fait qu'on veut tout le temps ajuster selon les tendances. En gardant une moyenne pondérée, pas juste compter la dernière année comme étant la plus forte, mais on veut s'assurer que toutes les, mettons, les trois années précédentes nous donnent une image plus réelle du niveau d'efficacité de la ligue. Puis je donne un exemple comme ça, mettons, on s'en va jouer en Finlande. Mais en Finlande, en moyenne, c'est 7,1% le moyenne d'efficacité des tirs. Tandis que si on joue junior majeur au Québec, c'est 10,11%. C'est quand même une grosse marge d'erreur. Enfin, une marge de différence. Fait que avoir des bonnes statistiques junior majeur comme gardien de but, c'est pas mal plus difficile qu'en Finlande.
OK. À cause de...
De la qualité des tirs, puis l'autre affaire...
Puis de l'efficacité du gardien aussi, j'imagine.
Il y a comme un entre-deux. Je veux dire qu'en Europe, c'est tout le temps plus bon un peu. Parce qu'en Europe, souvent à cause de la grande glace, tout ce qui est tir en périphérie, ça vaut presque rien en tant que tel. C'est très difficile de scorer des buts de l'extérieur. Puis par exemple, au hockey junior aussi, le niveau défensif de la Ligue. Je vous donne un exemple encore. Donc, on prend la LHPS dans le temps où RSEQ M18, et là, on montait à 12%. Parce qu'il y a tellement un écart entre le jeu défensif, les meilleurs joueurs, les gardiens. Donc là, ça nous permet d'être un ancrage pour le reste des statistiques.
OK. C'est un point de départ, dans le fond, pour après ça, travailler selon le calibre, selon où est-ce que tu es, pour travailler avec le gardien de but.
Exactement.
OK. Je voyais là, tu sais, parce que j'ai scrollé sur votre page Facebook, parce que je rappelle que vous n'avez pas de site web. Maintenant, vous allez en faire un, j'imagine. Vous allez m'aider.
Oh, ouais. Je tiens à dire qu'on en a déjà eu un.
C'était pas utile, c'est ça, je comprends.
Ça, exactement.
OK, c'est bon. Vous avez des ententes, là, tu disais, là, tu sais.
JB, tu veux-tu bien sacrer patience à nos invités, aussi? Il vient te voir, il te parle de son projet, puis tout ce que tu y ramènes. Chris, t'essayes-tu de vendre d'y faire un site web?
M'a t'aidé.
C'est ça, là. C'est comme la vente pyramidale, finalement. La POC est devenue la vente pyramidale.
Ouais. OK. Bon. Moi, je travaille autonome, puis je suis toujours à la recherche de contrats. Fait que, tu sais, un de plus, j'embarque. On parlait, tu sais, d'entente dans la Ligue nationale avec le Wild, avec les Panthers. Vous avez des ententes dans la LHJMQ. Vous avez des ententes dans la Ligue américaine. Vous en avez Slovaquie. Écoute, j'ai trouvé Slovaquie, Norvège, en Suisse. La Ligue M18-3A au grand complet. J'imagine que le niveau de l'entente est majoré ou est transformé selon le niveau de compétition. Là, tu ne demandes pas le même tarif à Ligue M18-3A qu'à Ligue nationale. T'sais, comment vous établissez cette valeur-là à travers les différents paliers? Est-ce que ça vous a influencé? Est-ce que...
Pour être honnête, là, c'est un modèle pour nous. Quand nous, on a besoin de faire la tâche, parce qu'on l'offre aussi, okay. De vraiment nous rentrer les données.
Allô?
Là, il y a un prix qui est supérieur. Donc, parce que là, il y a une tâche humaine, des man-hours qui sont ajoutés. Mais je te dirais que peu importe la ligue, souvent ça va être très similaire comme
Ah
prix.
ouais,
Là,
OK.
on fait pas de discrimination tant que ça à ce niveau-là. On est très. Pour nous, c'est un modèle qui se veut autant user-friendly que abordable. C'est surtout que là, la personne a l'opportunité de rentrer ses données. Donc, pour nous, c'est plus une affaire de est-ce qu'on peut avoir beaucoup de monde qui l'utilise que d'avoir juste des clients qui sont plus chers un peu.
OK. Dans le fond, l'objectif, c'est de vendre la méthode pour la faire connaître plus que de générer du profit à l'unité.
Exactement.
OK. C'est bon.
Puis, je dirais que les heures, mettons, une fois que nous, on l'a fait,
Ouais.
à chaque été, oui, on prend des heures, mais je veux dire, j'ai plus de coûts vraiment réels.
OK.
On n'a plus de coûts vraiment réels. Fait qu'une fois qu'on vend,
Ouais.
la marge de profit, elle frôle le sang.
C'est bon. Je comprends. Je lisais dans le journal La Tribune que tu étais le Billy Bean du hockey. À quel
Ça,
point c'est vrai?
c'est. Ben, le Billy Beans au hockey, c'est trop. OK?
J'imagine.
Le Billy Beans du Phoenix,
Ah
c'est
ouais.
encore un peu trop. Puis, c'est vrai que,
Le Billy Bean
mettons,
des assistants coach, mettons, sais-tu, on commence à être assez proche.
on est plus proche un peu. Mais, c'est vrai que, en termes d'entraîneur, genre, mettons, on compare avec junior majeur, je suis peut-être un des plus férus slash fervent de cette avancée. Mais pour moi, c'est pas que je suis un grand connaisseur. Quand je regarde mettons, les analystes NHL, que je lisais beaucoup leur matériel quand c'est public, pour moi, je suis pas sur la même page avec eux. Je suis pas sur le même pied d'égalité. Puis c'est juste que moi, je me suis intéressé beaucoup à ça, comparé à soit des entraîneurs qui sont un peu plus une vieille génération. Fait qu'il y a comme une espèce de gap où est-ce que j'en connais plus que des entraîneurs qui ont un long bagage de hockey, qui sont moins intéressés à ça, qui étaient moins new age ou qui étaient moins ouverts à ça au départ. Tandis que moi, j'ai gobé le contenu assez rapidement. Donc, ça m'a donné un profil différent comme entraîneur. Je pense que ça m'aide beaucoup, puis ça m'a aidé dans ma carrière. Mais c'est un. De là à dire le Billy Bean, il y a une marge.
Mais je comprends l'image aussi de la part du journaliste de vouloir t'sais, vendre l'article, générer du clic, puis que c'est quand tu tombes dans le domaine des stats avancées, c'est comme le plus gros référent populaire.
Oh, et puis,
T'sais.
je veux dire, si c'est pas de Moneyball, probablement que je tombe pas là-dedans, moi non plus. Pour être honnête, je me souviens quand je l'ai écouté, Moneyball pour la première fois, la première chose que j'ai faite, j'ai cliqué sur Internet pour trouver c'était quoi les stats avancées au hockey, si ça existait.
Ouais.
Puis là, je tombais là-dedans, je me suis mis à lire, dans le temps, Abs Eyes on the Prize, Hockey Graph, j'étais sur Twitter à côté, puis là, je lisais tout ce qui passait, puis là, ça m'a aidé, puis je veux dire, je réécoute encore Moneyball une fois par année, quoi, hein, minimum. Puis j'ai même avec mon ancien coloc, on s'est fait un cadre que je lui ai laissé, mais qui était une quote de Moneyball qu'on avait gardé. Puis, fait que c'est vraiment c'est un game changer dans ma vie quand même.
Ah, écoute, c'est cool ça. Maintenant, tu es assistant coach avec le Phoenix de Sherbrooke. C'est ta deuxième saison. Avant ça, tu étais avec les Chevaliers de Lévis. Je vais pas dire
Oui.
le bon nom de club parce que commandeur. Je sais pas, ça fait-tu longtemps que c'est plus les commandeurs? Puis moi, je suis resté dans les années 2000, c'est quoi?
Ça fait quoi, ça doit faire 6 ans?
Ok, moi, ouais, c'est pas si pire. Voyons, c'est pas si pire. Et à l'époque, quand tu étais avec les Chevaliers de Lévis, t'as croisé Éric Bélanger.
Oui, j'ai travaillé avec 2 ans.
C'était comment? Il semble avoir tout un caractère, cet homme très sympathique, mais d'une intensité quand même assez palpable.
Ah oui, il y a du caractère, puis oui, il y a de l'intensité. Mais je dirais que au début, il y avait un changement de mentalité, t'sais, avec l'entraîneur précédent, qui était quelqu'un d'un peu plus, sans dire analytique, mais qui était un peu plus méthodique, un peu plus planificateur, peut-être un peu moins quelqu'un qui a de feeling, d'émotion. Fait qu'il y avait un changement, mais Eric, il est très ouvert. Fait que ce qui était le fun, c'est qu'on pouvait s'ostiner Puis je dis ça le plus amicablement du monde, là. On pouvait parler, s'assiner, puis genre vraiment débattre. Puis le soir, un des deux pouvait s'appeler puis là dire hey, c'est ce que j'ai pensé à ton affaire, puis là on mettait l'eau dans notre vin, puis on progressait, puis c'était vraiment intéressant. J'ai vraiment eu du plaisir à coacher avec. Malheureusement, notre première année ensemble, on a vraiment une belle saison. Ça allait bien en saison éliminatoire. La COVID est arrivée, puis l'an 2, ben, c'était une année COVID au complet. Où est-ce que on pense qu'on avait vraiment un bel alignement? On aurait peut-être eu une autre chance de se prouver du moins en saison éliminatoire puis d'avoir du succès. Ça s'est jamais arrivé, puis ensuite, Eric est parti dans la ECHL avec Lyon.
Mais t'étais là la fameuse saison du 41 victoires
Une défaite.
et une défaite.
En saison régulière, oui.
Écoute,
Avec
ça n'a pas de sens,
Mathieu
là.
Turcotte. Ouais.
C'était
Ça, c'est ma.
comment de l'intérieur?
Non, ça, c'est ma première année, Midget 3. Donc, moi, j'arrive
Toi,
là.
tu dis tout, ça va tout être facile, là, tu sais.
C'est aussi mon stage de fin de l'université. Donc, moi, je suis en intervention sportive. Mathieu Turcotte, qui est entraîneur-chef, avait fait la même bac, mis en contact avec. Je fais mon stage, je fais ça en même temps. Première année, Midget 3. Je sais qu'on est supposé avoir une bonne équipe, mais de là à dire 41,
On
il n'y
va
a personne
rouler
qui
sur
pense
la
jamais.
ligue. Peut-être pas, là.
Mais tu sais, tu y penses jamais. Puis le premier week-end, OK. Premier week-end, c'est à Amos. Puis là, on sait qu'on a un excellent club à Amos cette année. Déjà, des années que ça peut être. Même quand ils sont bons, ça peut être difficile. Là, c'est une année qui est très difficile à Amos. Fait que là, ça part, là. Rivière-du-Loup, on joue une game là-bas un vendredi après-midi. On gagne 12-2. Là, ça part. On a des vraiment bons matchs. Mais sur cette séquence-là, maintenant, on a collé 34 victoires de suite pour commencer l'année. Mais on a vraiment eu des matchs très serrés qu'on a juste été, tout a bien été. On a eu des victoires en prolongation. On a eu des matchs après deux périodes, on perdait. On a eu des matchs très serrés. Puis là, tout fonctionnait. Je dirais, nos 12 attaquants allaient bien. Défensivement, on donnait pas grand-chose. On avait la rondelle souvent. Le gardien de but faisait la job. On avait Thomas Couture qui jouait à 20 ans, qui était comme une surprise au camp, qui est embarqué, puis qui était notre gardien numéro un, qui a fait un job exemplaire. Fait que là, tout marchait. C'était le combat constant de garder ça humble envers les joueurs. C'est de dire, regarde, ça va être tough. Mais aussi dans le bureau, de regarder le calendrier et de dire, si on joue de la bonne façon, ben les cinq prochaines, on est supposé gagner.
Ouais.
On est supposé gagner. On savait c'est qui nos tough match-up. On savait cette année-là que Magog était difficile à battre. Gatineau était difficile à battre. SSF, c'était tout le temps difficile. Trois-Rivières avait une excellente année avec Zach Bolduc cette année-là qui était là justement. Tristan Luneau à 14 ans. On savait que c'était une grosse année aussi. Fait que on connaissait nos adversaires difficiles, mais durant la saison, ça a quand même bien été. Au challenge, on a battu Magog en finale. On avait eu un beau challenge aussi. Fait que là, c'était comme nos débuts avec ça.
Qu'est-ce qui est arrivé dans la défaite?
Ouais,
La
c'est la
défaite, c'est
faute
pas
à
moi.
qui?
La faute, c'est qui a gâché la saison parfaite?
Tout le monde. On jouait contre Magog. Magog a vraiment une belle équipe. C'est eux qui ont gagné les éliminatoires cette année-là.
Oh les chiens, n'est-ce pas?
Non, mais Magog a vraiment une belle équipe. Et il y avait une grosse profondeur défensive. Souvent, nous autres, ce qui nous aidait, on avait une très grosse profondeur offensive. Défensivement, on avait un top 4 qui était bon, mais on n'était pas excellent, excellent. Eux, se retournent leur top 4, là. Je pense que soit il y en a 4 qui jouent 20 ans, je pense, dans la ligue. Je joue majeur en ce moment, là. Si je m'en vais vérifier, là. Je pense qu'il y avait Édouard Cournoyer, Ken Gauthier, il y avait Béliveau, puis il y avait Jack Dion. Si je me souviens bien, là. Ouais. C'est à peu près ça. En plus d'avoir Alexandre Doucet qui joue à 20 ans, Justin Robida, il y avait beaucoup de très bons joueurs.
Oh ouais.
C'était un match où est-ce que on a perdu le momentum, on n'a jamais été capable de leur gagner tant que ça. Ils ont scoré sur l'avantage numérique. Après ça, on s'est battu, mais on tirait de l'arrière. Puis Ils ont vraiment joué une belle game défensive. On n'a jamais été capable de remonter ensuite.
Fait que les autres, il y avait plus de bons joueurs high-end, mais vous aviez les meilleurs joueurs overall.
Mais il y avait surtout une meilleure défensive.
Ah.
Puis nous, on avait une meilleure offensive en théorie. Sauf que quand tu tires de l'arrière, mettons, on
Toujours
s'est fait
compliqué.
scorer. C'est toujours compliqué, là.
Ouais.
L'autre bord joue mieux défensivement. Là, tu joues du hockey désespéré, ça devient plus difficile.
Est-ce que tu sais, après cette game-là, vous rentrez dans la chambre, vous engueulez tout le monde, ou vous faites comme, ah, c'était le fun. Non, mais je veux dire,
Non,
après
mais
34 victoires, tu vis ta première défaite,
tu reviens pas Jacques Mercier sur
ben,
eux autres, je
c'est
pense.
ça, là. Tu...
Non, mais faut que tu remettes ça en contexte, là. Est-ce qu'on était content de notre match? Non. Mais est-ce qu'aussi on savait qu'à un moment donné, on en a perdu, là? Jamais on a pensé à être 42-0. On a pensé à un moment donné, OK, on va peut-être en perdre genre 8 dans l'année. Mettons être 34-8, tu te dis c'est une belle saison pareille. Fait
Ouais.
que là, finalement, on savait qu'on a remis ça en contexte. T'sais, pour les joueurs, moi je me souviens clairement que je suis rentré chez nous puis j'ai pas dormi de la nuit ou pas loin. Là. Genre,
Choc
j'ai pas.
post-traumatique.
Non, mais j'ai repassé à la game au
Ben
complet,
oui.
sur vidéo, voir qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qu'on pouvait changer, c'était quoi la prochaine étape. Puis
Mais
le
tu
lendemain, on
changes
rejoue.
quoi? Je veux dire, tu viens d'en gagner 34 en ligne, t'en perds une, tu fais comme ben. On l'oublie celle-là, puis on fait comme s'il n'existait pas. Là. Tu peux pas tout changer. Tu peux...
Non. Non, mais pourquoi, mettons, on n'avait pas eu atteint nos standards de performance en interne?
Ouais.
Fait que là, que ce soit les sorties de zone, les entrées de zone, le temps de possession en zone offensive. fait que c'était ça un peu que j'avais regardé. Puis on avait regardé aussi, mettons, les zones de revirement, qu'est-ce qu'il y en avait commis, c'était dans quelle situation. Juste avoir une idée de, OK, qu'est-ce qu'ils ont changé contre nous spécifiquement, qu'il faut être prêt le prochain coup qu'on les rejoue. Si on les rejoue. Puis le lendemain, tu sais, on avait quand même pas de temps. Le lendemain, on rejouait contre Gatineau, qui était la troisième meilleure équipe de la Ligue, qui était le champion de sa division. Qu'on a gagné avec un but gagnant avec 2 minutes 30 à faire, 3-2. Donc, le lendemain, c'est aussi un match difficile, là. On aurait pu perdre les deux tout de suite à ce moment-là.
Puis là, ça aurait vraiment pu être le début d'une cassure ou quelque chose comme ça, plus profond
Ben,
que...
t'sais, je pense pas qu'avec l'alignement qu'on avait, ça aurait vraiment cassé. Je veux dire, la fin de semaine d'après, on joue contre les adversaires que je veux dire, avec une semaine de pratique normale, à moins que les gars disent là, hey, on n'est plus bon puis on n'a plus aucune confiance en soi, on aurait été correct. On aurait struggled un peu, là, on aurait eu une certaine difficulté, mais on aurait été correct pareil.
Ok. Comment ça s'est fait le passage des Chevaliers vers le Phoenix?
Je pourrais appeler ça l'été des entrevues cet été-là, pour être honnête. La version, mettons, la timeline, c'est qu'Éric nous annonçait qu'il partait à Trois-Rivières.
Ok.
L'autre adjoint partait aussi. Donc, qui était Louis-François Richard, qui était l'adjoint des défenseurs. Lui aussi, il partait. Fait que là, on ne savait pas c'était quoi l'avenir. Moi, j'espérais peut-être être en chef de Jet 3. J'ai eu une entrevue, un contact d'Éric. J'ai eu une entrevue à Rouyn-Noranda avec les Huskies. J'ai pas eu un job, j'étais le finaliste. Finalement, ils ont pris Patrick Lefebvre, qui est mon ancien joueur junior qui a le record de plus de points dans l'histoire de la Ligue. Donc,
Ah,
ils ont
oui.
pris excusez-moi, Patrick Lefebvre. Après ça, Éric à Trois-Rivières, il a remis ça à ma portée. Il y avait une question de budget pour avoir deux adjoints. Il y avait une tâche qui était disponible qui était comme coordonnateur des opérations hockey, mais ça définissait pas vraiment ce que je voulais faire dans le monde du hockey. Donc là, il y a comme eu des discussions là-dessus un peu avec Eric. Finalement, il y a eu aussi Val d'Or il y a eu quelqu'un que je connais qui a appliqué pour la job d'entraîneur-chef, qui a une entrevue, qui était dans les deux finalistes. Quand lui s'il l'avait, je savais que j'étais dans les candidats potentiels slash assurés de monter avec. Finalement, lui, il l'a pas eu. c'est Max Zagusso qui l'a eu, je l'avais texté, et lui est en train d'organiser des affaires, j'étais peut-être pour avoir une entrevue. J'ai eu l'entrevue en chef à Lévis, que j'ai pas eu. Fait que là, je me dis, bon, so be it, je signe mon contrat comme adjoint à Lévis, je changeais de rôle pareil, j'avais plusieurs responsabilités. Moi, je travaille au Hockey Nord aussi, sur la Rive-Nord de Québec, avec Québec Centre, qui est devenu SLQNE. Donc, je signe mon contrat là-bas. Finalement, Stéphane Julien me texte un matin. Je suis pas... Dans ce qu'il recherchait comme entraîneur adjoint, je pensais pas que j'étais le profil pantoute, j'avais pas appliqué, rien. Donc, il m'a texté. Et tu es disponible, nana. Il m'appelle. C'est le vendredi. Il m'appelle. Il me dit, lundi matin, tu es disponible pour l'entrevue. Je dis oui. Il dit, je vais t'envoyer des vidéos durant la fin de semaine pour regarder, pour te préparer pour l'entrevue. On va se le dimanche soir. Lundi matin, aller-retour Québec-Sherbrooke. Je suis sorti de l'entrevue. Je pensais que j'avais bombé l'entrevue. Je suis sorti de là, j'étais en beau fusil. J'ai conduit quasiment la moitié de Sherbrooke-Québec sans musique, à juste ruminer l'entrevue, à réinventer
la roue. Qu'est-ce que tu as fait pour te saboter de même, disais-tu?
Je vais finir.
OK, excuse-moi.
Qui est arrivé avec un chandail des Canadiens.
Non, mais tu vas voir, c'est un lien en plus avec ce qu'on parle depuis le début, mais je suis parti de là, j'étais sûr que je l'avais pas. Le lendemain midi, je suis sur la glace. Je finis ma pratique. Stéphane me rappelle pour me dire que j'ai la job.
OK.
J'ai vraiment surpris, puis parce que ça a quand même été vite, là. Tu sais, l'entrevue, c'était à la fin de l'été, c'était fin juillet. Je pense que j'ai signé mon contrat le 22 ou le 24 juillet. Puis on commençait le 12 août, là. Fait que j'ai déménagé entre-temps, j'ai fini mes affaires à Québec, puis j'ai déménagé. Mais durant l'entrevue, il est venu le temps des stats avancer un peu. Puis, Steph, il m'a challengé à ce niveau-là. Pas juste une fois, pas juste deux fois, genre trois fois, puis même la quatrième fois, c'est la fin de l'entrevue, où est-ce qu'il est revenu à la charge en me disant, tu sais, je suis pas sûr que, genre, tu m'as pas convaincu que, genre, t'es pas juste un gars de stats avancés versus un coach, puis, fait que, tu sais, c'est les... Maintenant, ça fait quatre fois, puis là, tu dis, si je l'ai pas convaincu les trois premières heures.
Ben oui, c'est ça.
Je l'ai, j'aurais pas convaincu à quatrième, tu sais. Fait que c'était un peu ça, mon.
Fait que tu as dit, finalement, c'est de la merde des stats avancés, là. On va se le dire, on va être honnête, là. Tu t'es rattrapé de même à la dernière.
Non, vraiment pas. mais, tu sais, après ça, plus tard, tu sais, il me challengeait juste pour voir si j'allais backer off, si j'allais, okay, tu sais. Changer mon fusil d'épaule, ainsi de suite, mais à ce moment-là, quand je suis parti, comme je te dis, j'avais amené une base, je me dis, là, je l'ai manqué, tu sais. À l'inverse, les autres entrevues que j'avais eues durant l'été, j'étais sorti de là, top of the world, très confiant, et j'avais, tu sais, j'étais pas confiant d'avoir un job, mais j'étais confiant de, je viens de faire une bonne entrevue.
OK.
Tandis que l'autre, je me suis vraiment fait pousser dans mes retranchements, puis là, j'étais pas sur un terrain confortable.
Ça avait, ouais, c'est ça. C'est, des fois, tu dis, hey, j'ai bien performé, mais je sais pas ce qu'ils cherchent ou whatever. Puis à l'inverse, des fois, tu te fais surprendre. Tu fais comme, ah, ouais, c'est moi qui choisis. Ben ouais. Mais tant mieux. Tant mieux.
Exactement.
Puis là, tu disais que la description de tâche, c'était pas tout à fait ce que tu visais ou ce que tu souhaitais.
Non, c'est pas ce que je souhaitais, c'est que moi, je pensais qu'ils cherchaient un premier adjoint. Fait que souvent, dans le jargon, pour les entraîneurs, un premier adjoint, c'est quelqu'un avec plus d'expérience pour pouvoir s'occuper des défenseurs. Fait que moi, je pensais que c'est ça qu'ils recherchaient parce que le premier adjoint, l'entraîneur de défenseur, était devenu assistant directeur général.
OK.
Donc, dans ma tête, le spot qui était libre, c'était pas quelque chose qui fitait ma définition de tâche. Dans le sens que moi, comme nouveau, qui n'a jamais joué junior majeur, qui n'a jamais coaché dans la ligue, que j'avais un bagage de coaching, mais pas à ce niveau-là, je pensais que ma définition de tâche, c'était un peu plus deuxième adjoint, m'occuper des attaquants, C'est vraiment plus ce rôle-là.
Okay. Et donc, aujourd'hui, ce que tu fais, c'est ce que tu pensais faire ou tu as gradué comme premier?
Je m'occupe des attaquants. Puis
okay.
C'est vraiment la chaise, je pense, qui est à ce moment-ci de ma carrière qui me convient le mieux. En plus, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est quand même bizarre parce que je suis un ancien gardien de but, mais
oui.
Ce qui m'allume beaucoup, c'est scorer des goals. Ce qui m'allume beaucoup, c'est l'offensive. Fait que ça va vraiment plus dans ma chaise.
OK. Fait que je m'imagine, parce que tu as pass hockey qui est pour les gardiens de but, puis là, tu coaches les attaquants. Fait que clairement, tu dis pas le même message aux gardiens de but de l'équipe que tu dis aux attaquants. Tu lui dis pas.
Ah, mais honnêtement, je m'occupe, à part avec pass, je m'occupe plus zéro des gardiens.
OK.
Ça va faire 6 ans, 7 ans là, que gardien de but, c'est dans le review mirror, genre, c'est en arrière, puis je m'occupe plus vraiment des gardiens de but partout, puis je suis 100% avec les attaquants. J'ai accompagné de stats, mais même, je dirais, à part recherche et développement, c'est Hugo qui est au D2D qui s'en occupe un peu plus que moi. Moi, je m'occupe plus un peu de vraiment du côté stats. Mais côté évaluation, suivi des entraîneurs, etc., ça se tombe beaucoup dans la chaise à Hugo.
OK, je comprends. Le Phoenix est une solide machine de hockey là, cette année. C'est deuxième dans la Q en ce moment, si je ne me trompe pas, ouais. Derrière les Remparts. Vous avez Joshua Roy, prospect des Canadiens de Montréal. Vous avez Ethan Gauthier. Ça peut aller jusqu'à où, le Phoenix? Selon toi, cette année?
L'objectif, c'est all the way, mais après ça, je suis pas le genre de personne à faire des prédictions. Je suis peut-être un peu superstitieux, je veux pas me jinxer, je veux pas aller nulle part. C'est pour nous, en ce moment, on est dans un mode où est-ce que le processus est plus important que les résultats. On veut jouer de la bonne façon, on veut aller. On veut mettre notre identité d'équipe de l'avant et être capable de l'appliquer constamment. Puis je pense que quand on fait ça, on a des vraiment bons résultats. Fait que on va voir comment ça évolue. On va voir la période des échanges à Noël. Ça va être. Il va y avoir des changements, des trucs qui vont sortir du champ gauche pour plusieurs équipes, certainement. Ça se peut que le profil qui se dessine en ce moment des équipes après Noël soit complètement changé. Fait que on va finir notre première moitié d'année en étant la meilleure équipe de hockey possible qu'on peut être. Puis sa deuxième moitié d'année, on verra.
Dans le pré-show, la même question avec une autre réponse. Non, c'est pas vrai.
Moi, je suis comme Jon Snow, hein. I know nothing.
Non, hein. C'est ce que je me disais. Je parlais de Roy et de Gauthier. Gauthier qui est vu par plusieurs experts comme un choix de milieu fin de première ronde cette année pour le repêchage de la Ligue nationale. Parle-nous un petit peu de ce gars-là, puis qu'est-ce qu'il peut amener dans la game. C'est quoi son coffre outil?
Lui, il aime ça se comparer à Brady Tkachuk. Puis, okay. Il a quand même raison. Dans le sens que, oui, ce côté-là peste un peu. Il est très physique. C'est même pour... il est encore jeune, il n'est pas encore... il pèse pas encore 200 livres. Mais il frappe comme un gars de 200, pareil. Il pèse 177, puis il frappe très fort. Il a un beau paquet d'habileté. C'est un poison autour du filet. Tout ce qui est le bureau, quasiment à Brendan Gallagher, il va vraiment être dangereux qu'il est là, quand il est là. Un beau IQ, il va déranger l'adversaire. C'est un beau package, sans dire power forward, là, mais c'est un attaquant de puissance un peu qui avec une touche offensive quand même.
Donc, ça sera pas nécessairement le gars qui va remplir le net, mais il va faire tout le restant pour ouvrir la voie pour ses coéquipiers.
Ouais. Au niveau junior, il va compter des buts, puis ouais, il ouais, compte. Ouais. Au prochain niveau, faut pas penser que c'est un gars qui va en scorer 40.
Okay. Il va juste passer à gratte devant le net. Là.
Ben, tu peux en passer 20 en passant. Tu peux en scorer 20 en passant ben à oui. gratte. Pis...
Ah ben Gallagher en a scoré 30, là, tu sais.
Ouais, exact. Puis fait le tour des gars à NHL qui en score 20 de façon régulière. Regarde leur contrat, puis je passerai gratuitement moi aussi.
Oh, tellement, oui.
Oui. Oh, oui. Puis de l'autre côté, Joshua Roy, on connaît un peu l'histoire qui l'a amené vers le Phoenix. Il est revenu de ses cendres avec le Phoenix. À quel point il est dominant cette année? À quel point il a tout mis les gears à bonne place pour passer le prochain niveau?
Moi, je vais acheter une affaire. C'est Josh, je l'ai eu à Lévis aussi.
Oui, je sais.
L'année 41-1, fait que ça fait un bout que je le connais. Je te dirais que tout ce qui est préparation physique, il y a vraiment une grosse différence entre ce qui s'est passé à Saint-John et à Sherbrooke. C'est vraiment, il est vraiment plus en forme, il est plus rapide, il est plus fort. C'est son gros défi, puis ça va rester tout le temps. T'sais, il est dominant, il fait des jeux de hockey que presque personne d'autre dans la ligue fait. Je sais qu'une de ses plus grosses forces, c'est qu'il manque presque pas de jeu. C'est rare que tu regardes avec la rondelle et tu te dis, ça, c'était pas le bon jeu. Ça, c'était pas la chose à faire. C'est vraiment rare. Après ça, lui, c'est son pace. Fait que le nombre d'événements qui arrivent sur la glace quand il est sur la glace. Parce que son premier mindset, c'est de ralentir le jeu. Fait que des fois, de jouer avec la vitesse, de driver, puis il l'a. Pendant un bout de sa vie, il l'avait moins parce qu'il était moins en forme. Tandis que là, maintenant, il l'a. Fait que là, c'est d'embarquer ça de façon constante pour lui.
Il a vécu... Tu sais, l'année passée, c'était une année particulière. Là, c'était la fin de la COVID, tout ça. Il a vécu le championnat du monde junior, les U20. Plus d'un point par match, 8 points en 7 games. Et il a fait un passage avec le Rocket de Laval. Il n'a pas joué, mais il était dans l'entourage de l'équipe. À quel point ça l'a changé? Est-ce que ça l'a, tu sais, ça a placé les idées? Est-ce que ça l'a mis focus sur ce qu'il y avait à faire pour justement passer au prochain niveau?
Je pense que ce changement-là était déjà effectué avant. Tu sais, avec la Rocket, c'est plus de voir la routine du day-to-day professionnel. Je pense pas que ça a changé son mindset sur comment il voulait y arriver. Il a juste vu, OK, c'est quoi le niveau, comment ça se passe. Les gars sont-ils physiques, sont-ils plus rapides? Fait que pour lui, c'est juste comme d'apprendre à connaître le niveau. Les championnats du monde junior, c'est un rêve de petits gars pour à peu près n'importe qui commence le hockey puis qui suit ça un peu. Fait que pour lui, c'était plus atteindre ça. C'était pour moi, ça démontrait le chemin qu'il avait parcouru. Fait qu'après ça, pour lui, ça va être dans l'espoir, ben, meilleur des mondes. Il n'y a rien de confirmé dans la vie, mais ce serait de répéter à Noël encore une fois pour lui. D'avoir des bons succès là-bas, d'avoir une belle fin de saison à Sherbrooke. Puis après ça, ce sera pas. Il jouera pas à la Ligue nationale l'an prochain, mais ça va être à lui de faire les efforts au prochain niveau pour s'adapter et continuer.
Penses-tu que Ethan peut aller au mondial? C'est un 17, hein? C'est une
Non. Mettons, les 17 ans.
C'est rare, là, je sais.
À part, faut que tu sois Connor Bedard, faut que tu sois Connor McDavid, faut que tu sois, tu sais, à l'avant particulièrement, là, faut que tu sois ultra, ultra, ultra dominant. Fait que, à 18 ans, il pourra être invité. Je pense que, dépendamment de la cohorte, comment ça se passe, comment sa saison va, à 18 ans, il y aura une chance d'être invité. Puis après ça, ben, si on a 19 ans, ça va être, c'est dans longtemps, fait que ça va être à lui d'avoir la, les saisons qu'il faut puis d'avoir les performances qu'il veut pour ce temps-là.
Là, ça, je te le dis, là, c'est la question la plus chienne que je vais te poser de l'entrevue, OK?
Vas-y.
C'est demande la présence de ton avocat, whatever, OK? Mais j'ai pas le choix. Lequel des deux va avoir la plus belle carrière en Ligue nationale, selon toi? Ou qui a les bons outils ou. No comment! Je passe!
Il t'a dit qu'il faisait pas de prédiction.
Ouais, écoute, moi, faut que je la demande.
Tabarnak, c'est parce que lui, il faut qu'il voie demain, là.
Viens, ouais. Réponds pas au pire.
Réponds comme ça. Plaide le cinquième amendement. On n'est pas aux États-Unis, mais plaide le cinquième amendement.
Yo, mettons, la réponse la plus honnête que je peux te donner. Yeah. Je vais y aller.
La plus honnête. C'est correct, je la prends.
La plus honnête que je peux te dire, parce que je serais pas capable de répondre. Pas parce que je veux pas, mais je serais pas capable de faire la prédiction. Moi, je pense que Ethan Gauthier, sa carrière, il va connaître sa chaise. Il connaît son rôle, son identité. Ça va être ça qui va lui permettre de jouer. Josh, pour moi, j'ai confiance qu'il va faire des points au prochain niveau dans la Ligue américaine. Après ça, Ligue nationale, c'est quoi sa chaise? Est-ce que c'est un troisième ligne, c'est un deuxième ligne, c'est un middle six? C'est là que, pour moi, s'il est capable de faire des points, où est-ce qu'il a le IQ et les skills, pour moi, pour le faire, s'il est capable d'en faire sur un middle six, il va aussi avoir une belle carrière, mais pour moi, c'est plus un qui connaît son identité, il faut qu'il soit capable de l'appliquer constamment. L'autre qui va être capable d'appliquer son identité dans la Ligue américaine, puis dans la Ligue nationale, est-ce qu'il va être capable de l'appliquer de la même façon, ou va être capable de changer. Mais je crois beaucoup que Josh est capable de s'adapter. Fait que pour moi, c'est ma réponse la plus honnête possible.
C'est parfait. J'accepte cette réponse. Tout à fait. Ethan n'est pas le seul Gauthier dans l'équipe. Il y a aussi Kaylin Gauthier qui est dans ce club-là. Mais il y a surtout un papa qui est un peu particulier, qui est Denis Gauthier, un ancien défenseur de la Ligue nationale. À quel point, puis en plus qui est impliqué avec les Vultures de Drummondville, ça change. Est-ce que ça change quelque chose dans l'approche avec ces gars-là? D'avoir un papa qui a joué la game, puis qui en plus conseiller spécial, assistant coach avec un autre club, la Q.
Zéro. Je veux dire, je sais que c'est leur père, mais pour moi, ça n'a rien changé. Je l'ai croisé dans les estrades, mais à part ça, ça a chez la tête, je veux dire, il n'y a pas eu de contact, il n'y a pas eu rien. Il y a pas... Puis, je pense que Denis est vraiment bon à avoir enseigné le savoir-être à ses kids sur comment se comporter, comment se rendre jusqu'en haut, comment, tu sais, everyday être une bonne personne, être un travailleur, ainsi de suite. Mais je pense aussi qu'il laisse être eux-mêmes dans leur hockey, puis de pas faire l'over-coaching, puis de faire confiance aux gens en place.
Parce que c'est vu des papas qui s'impliquaient beaucoup trop, t'sais. Même dans la Ligue nationale.
Ça, on n'a pas de nom.
Ça n'a pas toujours bien fonctionné, dis ça de même. Au début de l'entrevue, on parlait de pass hockey, des stats avancées, de l'implication que ça a. À quel point t'amènes ça dans ton rôle comme assistant entraîneur dans la Q? C'est quoi la place qu'on fait à ce niveau-là de hockey, à ce genre de données-là?
Je te dirais que aujourd'hui, la grosse différence, c'est que les plateformes qui existent font que je fais beaucoup plus de l'analyse que de la collecte de données, ce qui me va... qui me va très, très bien, là, parce que c'est pas la collecte de données que j'apprécie particulièrement. Donc, une fois ça passé, je te dirais que on l'utilise beaucoup plus en interne pour, comme je parlais tantôt de processus sur notre façon de jouer. On le sait beaucoup plus en forme de rapport d'après-match sur est-ce qu'on a joué de la façon qu'on voulait. C'est quoi les chiffres qui sont importants pour nous? Parce qu'au final, t'améliores ce que tu mesures. Fait qu'on veut juste mesurer les trucs qui sont importants pour nous, pour s'améliorer dans ces aspects-là. Fait que oui, on en fait. On a accès à des différentes plateformes qu'on consulte. Mais la place en tant que telle, c'est les rapports d'après-match, je te dirais que les rapports que je fais, ça doit me prendre 1h15, 1h30. Fait que dans ma semaine, c'est le temps que j'y consacre. Plus peut-être, cette année, on a accès à des stats comparatifs de ligue dans une de nos plateformes. Donc, des fois, dans les avant-matchs, on va consulter à partir de là. Mais c'est un outil d'accompagnement pour poser des questions. C'est pas la panacée. C'est pas ça qui donne la réponse absolue. Ça permet juste de soit confirmer ce que tu vois déjà, ou si ça infirme, si c'est pas si ça dit voyons, je file pas de même, c'est pas ça que j'ai ressenti comme coach, puis le chef dit ça, ben là il faut que tu te demandes pourquoi, puis là l'analyse vidéo ou ainsi de suite va venir t'aider à comprendre c'est quoi la différence entre le chiffre et ton feedback personnel de coach.
On a vu John Cheka qui venait des stats avancées dans la Ligue nationale comme directeur général. Kyle Dubas aussi à Toronto qui semble être plus sensible à ça. Je sais que c'est maintenant dans la Ligue nationale, pas mal tous les clubs utilisent des stats avancées à divers niveaux, mais ces deux exemples-là ne sont pas nécessairement les, surtout Cheka, là, les meilleurs vendeurs pour les stats avancées. Pourquoi?
Je dirais que. Ben, d'un, on en parle tantôt, mais le hockey, souvent, je veux dire, c'est un milieu qui est très rébarbatif au changement. Au départ, fait que là, les stats, au départ, il y a eu un très gros contre-coup. Là. Donc, il y avait un très gros clash. Finalement, aujourd'hui, ça s'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Uniforme, puis beaucoup plus en unisson. Les stats, c'est la version, mettons, old school la game. Donc, là-dedans, je pense que ces gars-là, ils sont arrivés tellement à l'opposé, à place d'essayer de rentrer en harmonie un peu avec ce qui se faisait déjà, que ça changeait, ça faisait tellement un gros clash que c'est pour ça qu'ils n'étaient pas nécessairement bien vus. Mais si tu regardes aujourd'hui, tout le monde suit les stats avancées à différents niveaux, comme tu disais. Mais même Kyle Dubas, qui est reconnu pour être un peu plus sensible à ça, on regarde les moves qu'il a fait dans le passé, puis il a été chercher des gars très old school, il a été chercher la grit, il a été chercher... Tu sais, Kyle Dubas a fait tous les rôles au hockey possible, quasiment de stick boy à scout, à agent de joueur, à assistant GM. Fait que il y a une espèce de, quand tu as un gars de stats, il faut que tu respectes ce qui s'est fait dans le passé. Il faut que tu comprennes pourquoi ça s'est fait comme ça. Puis tu as aussi tes idées qui sont nouvelles. C'est quand quelqu'un arrive puis il va avoir un trop gros clash puis dire, regardez la nouveauté, c'est pas vrai que c'est comme ça que ça se passe. Il y a une raison pourquoi quelque chose a été fait pendant tant d'années d'une telle façon. Il y avait un succès qui se faisait avec ça. Après ça, il faut que tu comprennes pourquoi c'était fait de même. Puis qu'est-ce que toi, tu essaies d'amener au niveau, puis comment tu peux merger, excusez-moi l'anglicisme, les deux ensemble.
Avez-vous des questions, les boys? Parce que là, moi, écoute, j'ai l'impression que je fais un show tête à tête avec Joe. Je suis content, là, j'aime ça.
Ben ouais, on va vous allumer des chandelles, puis.
Je fais couler un bain tantôt.
On va optimiser les lumières.
On va vous coller une petite pizza, puis let's go, là.
Les stats avancés, JB, c'est ton département.
Ah ouais, mais quand même, là.
Tu sais, moi, je vois un tableau avec ça, puis je chaîne du nez, là.
Okay.
Avec tout le respect que tu sais, je le sais que c'est. Tu sais. Ça a son utilité, là, mais tu peux pas me demander de lui poser des questions.
Ah, mais ça peut être des questions, OK, je veux dire.
Moi, j'ai deux questions qui sont pas stats avancées.
Vas-y.
La première, vu que tu es coach, y a-tu une qualité qui est mieux dans un joueur pour pouvoir l'améliorer? C'est juste une qualité.
Ben. Pour moi, là, puis tantôt, j'ai parlé un peu quand j'ai touché un peu le sujet de Josh. Moi, un joueur qui est capable de s'adapter, tu sais, qui est capable de s'améliorer de façon constante, puis s'adapter aux nouvelles circonstances. C'est ça, pour moi, c'est un des plus grands prédicteurs avec le fait d'avoir de la grit, là. Mais pour moi, c'est un des plus grands prédicteurs. Fait que quand il change de niveau, puis il est capable de s'adapter au niveau, sur la façon de jouer, sur OK, ça, c'est mes habiletés. Voici comment je peux les utiliser dans ce nouvel environnement-là. Pour moi, c'est fou ce que ça fait.
S'adapter au nouveau coach aussi, j'imagine.
Aussi, certainement. Façon de jouer, la vitesse, le calibre, ainsi de suite, la force des joueurs. Puis là-dedans, il y a aussi une espèce de connaissance de soi. Si tu as une bonne connaissance de ton identité, de tes forces, tes faiblesses, souvent, tu es capable de beaucoup mieux t'adapter parce que tu vas jouer dans tes forces et tes faiblesses à place de tirer all over the place.
Vandal, il y a une question dans le chat. Voulais-tu...
Oui, je peux demander. Ami, c'est mon ami qui a demandé si toi ou ton associé ont une formation académique qui t'a amené à ça ou si vous êtes des self-made dans le monde des stats.
Les deux ont une formation académique qui ne sont pas reliées aux statistiques.
Okay.
Dans le sens que moi, j'ai un bac en intervention sportive de l'Université Laval. Donc, intervention sportive, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme un peu... tu prends éduc, tu prends kinésiologie, fait que tu prends la pédagogie d'éduc, la performance de kinésiologie, tu mets ça ensemble, tu ajoutes une pincée d'administration reliée au sport, puis tu fais un bac avec ça.
Fait que ça sert ça à quelque chose.
À coacher,
c'est bon.
Soit c'est coacher ou faire de l'admin sportive. Fait que souvent, les gens qui finissent mon bac, il y a vraiment comme deux embranchements. Tu as les coachs, puis tu as les administrateurs sportifs. Fait que là, qui travaillent pour la RSEQ, qui travaillent pour l'hockey mineur, qui travaillent pour la LHEQ, ainsi de suite. Et là-dedans, moi, j'avais des cours de mesure et analyse de la performance. Mais quand j'ai fait ces cours-là, mon modèle était déjà créé.
Okay.
Hugo, lui, il a un bac en Ken, un bac en admin, et il est en train de faire un bac en informatique.
Fait que c'est lui le programmeur, c'est ce que je comprends entre les deux.
Au début, c'était nous deux. Maintenant, c'est lui.
Ouais, hein? C'est bon, je comprends.
Moi, je veux pas me vanter, là, mais chez nous, j'ai un bac à poubelle, un bac à recyclage, puis un bac à compost.
Oh! Monsieur est un expert.
C'est un bac de plus que moi, j'ai chez nous aussi.
Puis des fois, il les mélange. Là, ouais, ouais. Des fois, il met une poubelle dans le compost.
Inquiétez-vous pas, il y a des canettes dans les trois bacs.
Ça finit tout dans les poubelles, anyway.
Ben oui. Écoute, moi, j'avais fait le tour de mes questions. J'en reviens à Étienne Gauthier. La pression du draft, est-ce que c'est quelque part dans l'esprit? Est-ce que vous en jasez? Est-ce que tu penses que ça a une influence dans son jeu ou dans son mindset durant la saison?
C'est sûr que oui. T'sais, tous les joueurs que tu vas en parler, tu vas j'essaie de pas trop y penser, mais la réalité, c'est que tu y penses pareil. T'sais, tu finis les matchs, il y a un score de telle équipe qui est là pour te voir, pour te parler, pour te passer une mini-entrevue, apprendre à te connaître. Fait que oui, il y a une espèce de pression là-dedans. Ce que je trouve, c'est que pour Ethan, l'Inca de cet été, oui, ça l'a mis sur la map, mais ça l'a aussi réassuré sur son identité de joueur. Dans le sens qu'il a été très apprécié des scouts de la Ligue nationale parce qu'il a joué dans son identité. Fait que pour lui, la pression, c'est de se rappeler de jouer dans la façon qu'il veut jouer. Fait que c'est plus ça, cette pression-là pour lui, je te dirais. Oui, il veut obtenir les résultats. Lui, comme tout le monde, il veut qu'on gagne. Il aimerait ça participer, faire des points. Jusqu'à maintenant, ça va bien. Mais tu sais, je pense que c'est une espèce de cheminement là-dedans de la façon que je veux jouer pour me rendre jusqu'en haut. C'est cette façon-là. Fait que j'ai besoin d'une constance dans comment j'applique mon identité de joueur de hockey.
Jonathan Deschênes, assistant entraîneur pour le Phoenix de Sherbrooke. En terminant l'entrevue, le show principal, parce qu'on va aller dans l'après-show tantôt, dis-moi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette saison-ci? Sur le plan personnel, sur le plan d'entraîneur ou sur le plan de l'équipe, mettons.
Gagner le prochain match jusqu'à temps que mort s'en suive.
C'est bon. Ça va te rappeler des souvenirs dans le temps des Chevaliers.
Exactement.
Moi, je te souhaite une bonne pizza à tous les vendredis.
Merci. Ça, j'apprécie.
Parce qu'avec ça, tu vas être en business.
Voilà.
Ouais.
Jonathan Deschênes, un gros merci, Jonathan, pour ton passage sur la POC.
Merci à toi pour l'invitation.
Ce fut très apprécié. Je tiens à remercier aussi tous nos patrons. D'ailleurs, le 10 décembre prochain, on fait notre fameux Meet and Greet. On a réservé le restaurant pis tout. Donc, les patrons, vous avez été invités dans l'événement. Dites que vous venez parce que c'est réservé. Il ne faudrait pas tirer de la lancée trop, mais on a encore de la place. Un gros merci à tous nos patrons. Alex Fortier, Maxime Vaudry, Marc Pennault, Cédric Loyer, Pierre-Luc Albert, Carl Lapointe. Mon ami! C'est le mien, ça. Mon ami à
c'est
moi.
Mon ami.
Ah, arrête. Jérémy Leclerc Côté, Gabriel Normand, Samuel Pouliot, Michel Côté, Danny Hogan Tousignan, Martin Côté, Francis Benoît de Mémorable Authentique qui nous offre pour le prix de novembre une POC signée par Slavkovski. Donc tous les membres Patreon sont dans le tirage pour le mois de novembre. Un gros merci à la gang de Mémorable Authentique. Marc-André Fradrette, François Gagnier, Mark Griffith, Christopher Hills, Alexis Daou Tremblay, Pierre Giacometti, le podcast dans le slot, David Fontaine-Rondeau, notre crémeux favori, Jean-Philippe Vandal, El Flamingo. Jerry Godbout, Pierre-Louis Bouchard, Renaud Lavoie, Samuel Savard et Nicolas Schmid. Un gros merci, les patrons. On vous aime d'amour. Patreon.com/lapoc pour avoir accès à l'après-show et à tout plein de contenu exclusif et des tirages grâce à Mémorable Authentique. C'était JB Gagné, Eduardo Ponce qui s'est joint au fil de l'entretien. Salut, mon petit coquin, t'étais là.
C'est pour une bonne cause, c'est pour du coaching.
Ah, voilà.
Mon équipe à coacher.
Ah, ben là.
C'est ça.
Ah. Lui, il n'y a pas juste un coach aujourd'hui.
Ah, écoute. Quand est-ce qu'on t'interview? C'est ça la question. Quand est-ce que tu es libre?
Quand tu veux, mais je ne serai peut-être pas disponible.
Ah, c'est bon. Sylvain Rioux et Jean-Philippe Vandal qui étaient avec moi aujourd'hui. Et bien entendu, je vais gagner votre humble serviteur à l'animation de ce beau programme. Je vous dis à la prochaine, tout le monde. Bye-bye!